préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
Welcome to Helsinki. Please remain seated until the fasten seatbelt signs has been switched off. Please be careful in opening the overhead bins as items may have shifted and could fall out.
Tervetuloa Suomeen. Bienvenue en Finlande.
La Finlande, entourée au nord de la Norvège, à l'ouest la Suède, également à l'ouest et au sud la mer Baltique, à l'est la Russie. Quelques chiffres, 338 000 km² pour un peu plus de 5 millions d'habitants. La Finlande, ce sont aussi 100 000 îles et 200 000 lacs. Suivez le guide, vous emmène pour la première fois à la découverte de la capitale finlandaise Helsinki. 674 000 habitants, la plus grande ville de Finlande. Helsinki est la capitale la plus septentrionale du monde, après Reykjavik, la capitale islandaise, à 1900 km de Paris, à vol d'oiseau. Ce premier Suivez le guide en Finlande vous invite à faire la connaissance de deux, voire trois guides, Kristiina Kajaani-Kurki, Mia Saporito, spécialisée dans le design, car Helsinki est la capitale mondiale du design, et enfin Pascal Marie.
Seuratkaa opasta Helsingissä. Suivez le guide à Helsinki.
Tervetuloa Helsinkiin. Olemme X-hotellin ulkopuolella. On kaunis aamu. Lähdemme kiertämään Helsinkiä. Bienvenue à Helsinki de ma part. On est devant l'hôtel X. On va faire maintenant un tour à Helsinki. Il fait beau.
Il fait beau, le ciel est bleu, Kristiina, à Helsinki. Et nous allons découvrir Helsinki. Un petit mot de cet hôtel. On dit AXE, moi je pensais qu'on disait AX. Oh, non, on dit AXE. Ça veut dire quelque chose? Non, ça veut rien dire.
Bah, il faut demander. Hein.
Mais on est accueilli ici par une créature. C'est une espèce de... Je ne sais pas, comment décririez-vous? C'est une espèce de poisson volant, je sais pas.
Oui.
C'est pas un symbole typique.
Unicorne peut-être aussi.
Unicorne.
Unicorne ouais. Avec des voiles.
C'est pas un emblème de la Finlande, non?
Non.
Non. Non. J'ai déjà passé une nuit dans cet hôtel très agréable, avec un bar très accueillant et j'ai goûté un tout petit peu de cuisine très bonne. Donc c'est un hôtel qu'on peut conseiller. L'hôtel AXE. En revanche, à l'endroit où je suis actuellement, je n'ai aucune idée, Kristiina, de l'endroit où on est dans Helsinki.
On est à Jätkäsaari, donc un ancien port. Il n'y avait rien avant, juste le port. Ils ont commencé la construction en 2010.
Il est sorti il y a une dizaine d'années à peine, tout seulement.
Hein. Oui, comme un quartier résidentiel.
Et Kristiina, on part à la découverte de Helsinki, alors?
Oui.
C'est étendu,
on
Helsinki.
On a commencé par acheter les tickets pour vous. Ouais. Ça, c'est... Kiosk Arra.
Au kiosque, on peut acheter des tickets pour les transports.
Tehän myy THSL:n lippuja, eks niin?
Joo, myy.
Joo. Niin heille kaksi tämmöistä vuorokauslippua. Deux jours, un jour.
Un jour. Au niveau du prix, on est en euros ici.
On avait le marque finlandais jusqu'à 2002. Pendant la période russe, on avait déjà le marque finlandais.
On va parler de tout ça. Kristiina, le mode de transport le plus pratique pour découvrir Helsinki, c'est le tram?
C'est le tram, oui. Mais il y a aussi des vélos, city bike, moitié de l'année, pas en hiver.
Et en hiver, on se déplace à ski alors dans Helsinki?
Quelquefois, on a vu déjà, oui. On a des charges neige, donc la nuit, il travaille tout le temps.
Et en tram, on peut aller à peu près partout à Helsinki. On arrive au port.
Il y a des ports partout.
Mais c'est pas le port. Helsinki est un port.
Voilà.
Et Helsinki, c'est une presqu'île ou une péninsule?
Péninsule de granit qui a été établie pour concurrer avec Tallinn, le commerce avec les Russes.
Et aujourd'hui, Tallinn en Estonie.
1550.
Ah oui.
Donc Tallinn est une ville plus vieille, médiévale, hanséatique, tout ça. Helsinki est jeune.
Le peu que j'ai vu, je trouvais vraiment très jeune Helsinki.
Et là, par exemple, là, on fabrique des brise-glaces au centre d'Helsinki.
Ah, des bateaux, des brise-glaces?
Des bateaux spéciaux pour l'Arctique. Mais le problème avec la société, c'est qu'on l'a vendue aux Russes, aux oligarques. Et maintenant, essaie de trouver un acheteur, peut-être une société canadienne va l'acheter, espérons.
Ah oui, donc pour reprendre l'activité.
Oui, ouais. C'est actif toujours.
Ah, c'est toujours actif.
Ils ont des problèmes de financement, bien sûr, ouais. Parce qu'il s'agit des oligarques. Et le know-how qu'on a ici, on veut le garder.
Le quoi ?
Savoir-faire.
Ah, le know-how, savoir-faire. Donc, ce serait dommage que ça s'arrête.
La Finlande est le seul pays au monde où tous les ports gèlent en hiver. Et c'est pour ça qu'on a créé les brise-glaces. Il fallait trouver une solution.
On peut faire du patin à glace en hiver ?
Oui.
C'est toujours gelé. Même avec le réchauffement climatique ?
Aujourd'hui, plus parce que le changement climatique a fait que ce n'est pas toujours gelé. Il y a un panneau qui montre 3 années comment la mer Baltique et comment ça change année par année. Mais
c'est inquiétant.
Ben oui, bien sûr.
Oui.
Oui. I push a button. It says push a button on a guy. I push a button. You mean you killed me? A what? You mean you killed me? I push a button. You mean you killed me? A what? You mean you killed me? Radio station, radio CD, operating frequency, digital 96.2, stereo FM music, power, power 96, Helsinki.
Est-ce qu'en Finlande, on se tutoie, on se vouvoie ?
Se tutoie plutôt. Mais on n'est pas comme les Suédois qui disent toujours « toi ». Il y a des situations quand on vouvoie, par exemple, des politiciens à la télé. Des fois, on les interviewe en vouvoie, mais des fois, en tutoie.
Des fois, en tutoyant, ici ?
Oui.
En Finlande ?
Mm.
Oui. Parce que je sais qu'en Norvège, on m'avait dit « même si je rencontre un ministre, je vais le tutoyer ». Peut-être pas le roi, mais un ministre, je vais le tutoyer. En Finlande aussi ?
Souvent.
Si vous rencontrez un ministre, alors vous le tutoyez ?
Je fais partie d'une génération qui est habituée à vouvoyer aussi. Et moi, j'aime bien ça, ce style. Si je rencontre quelqu'un que j'ai jamais vu. Moi, je vous vois même. Je crois que c'est rare. Mais c'est moi.
Ah oui. Donc, on ne se tutoie pas, alors, Christina ?
Si. Bah, nous, on peut.
Oui, on peut se tutoyer,
oui,
alors ?
Oui. J'ai passé l'année 80 à Paris. Et mon patron et sa famille, ils se tutoyaient, tout le monde. C'était très rare à l'époque. Et j'avais des problèmes parce que, entre eux, ils tutoyaient. Et comment apprendre à vouvoyer les gens ? Parce que nous, on se tutoyait.
On vient de passer donc devant, effectivement, là où on fabrique, on construit des brise-glaces. Quand on se tutoie, on dit qu'on brise la glace. Donc, brisons la glace. Là, on va descendre où ?
Pourquoi pas ici ?
Ah ben, on va descendre ici. Le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage à Helsinki. On est toujours dans une ville très moderne, enfin une ville probablement du 20e siècle, non ?
Ça varie des années 60. Palais de tennis, ça s'appelle, mais il y a des cinémas et musées d'art. Et des années 1930, le style est, comme nous on appelle, fonctionnel.
C'est ça. Ouais.
Donc blanc, ça c'est construit pour les Jeux Olympiques. On devait organiser les Jeux Olympiques de 1940, mais on a organisé les Jeux de 1950. Donc, il y a beaucoup de bâtiments pour les Jeux 1940 et pour les Jeux de 1952.
Oui, 52.
Et on les utilise tous.
52, je me posais la question, je n'ai pas été revérifié. C'était les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver ?
D'été.
Ah, les Jeux, les JO d'été. Je me suis dit, Helsinki, Finlande, ça devait être forcément les Jeux. Tout le monde pense que c'est les Jeux des Olympiques d'hiver.
Oui, j'ai vu un guide français dire à son groupe que oui, il y avait les Jeux d'hiver.
Tu es allé l'arrêter, tu lui as dit non, mais tu dis une bêtise.
Ah non, on ne peut pas corriger quelqu'un devant le groupe.
Donc les JO d'été à Helsinki. Je suis sûr que si on fait un jeu 90%, sauf si certains ou certaines pensent qu'il y a un piège dans la question,
ah oui.
Mais sinon tout le monde va répondre forcément en Finlande les JO d'hiver.
Il y avait aussi eu un orage, parce que souvent à la fin de juillet, les jeux ont commencé le 19 juillet. Il y avait un orage juste à l'ouverture. Et il paraît qu'il y avait des Africains qui ont demandé « Mais pourquoi organisez-vous les Jeux d'été en plein hiver ?» Il a fait très chaud jusqu'à le jour d'ouverture.
Jusqu'au début.
Oui.
Mais alors c'est l'été et pourtant, alors là c'est le week-end en plus à Helsinki, on est au mois de juillet, à la mi-juillet, donc c'est une belle journée d'été, c'est le week-end. C'est très, très calme à Helsinki. Pourtant, il y a plus de 600 000 habitants. Mais les Finlandais, c'est le mois des vacances. Donc, finalement, ils partent et parfois, ils quittent la Finlande à la plus belle saison dans leur pays, non ? Enfin, la saison la plus chaude dans leur pays.
Il y en a aussi qui quittent, mais juste, je crois que peut-être pour
une semaine,
quelques jours, pour visiter une ville qu'ils veulent visiter. Mais pour moi, il fait trop chaud, quoi. Je reste toujours ici. Et les gens ont des petits chalets à la campagne, au bord des lacs, au bord de la mer. C'est ce qu'on fait.
Mais énormément d'habitants de la ville et d'Helsinki ont un chalet quelque part, au bord de la mer, à la campagne, ou dans les forêts, puisque c'est un pays de forêts, la Finlande.
C'est ce qu'on fait.
Et ça, c'est ton cas aussi.
Et de plus en plus, ce sont des maisons qu'on utilise toute l'année. Parce que la Finlande était un pays d'agriculture pendant très longtemps. Les gens ont retourné pour les vacances à la ferme d'où ils venaient. Et ils sont passés les vacances. Ils ont construit des petites chalets où on les appelle mökki.
La Russie n'est pas loin. On pourrait dire que c'est un peu, alors pardon d'utiliser un mot russe, mais c'est un peu votre datcha, c'est un peu ça?
Oui, un peu ça. Mais nous, on a des lacs. Donc on veut l'avoir au bord.
Les pieds dans l'eau.
Oui. Et le sauna, c'est important. Et le sauna est souvent au bord de l'eau.
Il y a toujours un sauna.
Oui,
on aura l'occasion de reparler des saunas, mais tu me disais hors micro tout à l'heure sur le nombre de saunas.
Le nombre de saunas, on ne sait pas exactement parce qu'on n'a pas des statistiques exactes, mais on a plus des saunas, on sait, que des voitures privées.
Ouais.
De toute façon, entre 2 ou 3 millions de saunas, un peu plus de 2 millions
de voitures. Parfois, on prend moins sa voiture qu'on ne va au sauna.
Voilà.
Ça pollue peut-être moins, je ne sais pas. On va tout de suite expliquer aussi, Christina, la différence. Nous, on se demande parfois s'il faut dire finnois, s'il faut dire finlandais. Donc, qu'est-ce qui est finlandais, qu'est-ce qui est finnois?
Moi, je suis finlandaise. Et la langue que je parle, c'est finnois.
Ouais, on ne dit pas « je parle le finlandais », ça c'est faux.
Alors, pas grave.
C'est pas grave. Bon, c'est comme les jeux d'hiver ou les jeux d'été. J'ai écouté un peu la langue finnoise. Ça paraît compliqué à comprendre. Enfin, j'essaye de reconnaître un mot ou deux. Rien, je ne reconnais rien dans la langue finnoise.
Non, c'est très difficile. Avant, par exemple, le téléphone en finnois, au début, on l'a appelé « telefoni ». Mais maintenant, c'est puhelin. Ça vient de mon parler puhua en finnois. Donc, même pas le téléphone est en finnois, on ne reconnaît pas. Moi, je suis grand-mère et mère. Je suis Haïti et Iso Haïti. Le père, c'est Issa. C'est papa.
C'est pas papa.
C'est pas papa. Oui, bien sûr, il y a des gens qui appellent papa. En suédois, c'est papa et maman.
Oui,
Haïti et Issa.
Finalement, peut-être.
C'est pratique à l'étranger, parce qu'on entend tout de suite « Ah, c'est mon enfant qui m'appelle ». Quand quelqu'un se dit « Haïti », tous les autres appellent.
Personne ne bouge.
Profunda.
premier Suivez le Guide à Helsinki est l'occasion de faire connaissance avec la capitale finlandaise, au sud du pays, au bord de la mer Baltique, mais aussi avec Christina, notre première guide.
Seuratkaa opasta Suomessa.
Toivoa tuova.
Suivez le guide en Finlande.
Ilmose.
Nous sommes vraiment, Christina, au sud de la Finlande. Si on voulait monter au point le plus au nord, c'est à combien de kilomètres d'ici, en gros?
Attendez, en gros, 1267 kilomètres. Jusqu'à Utsjoki.
Vous êtes déjà monté en voiture ou tu es déjà monté en voiture d'Helsinki jusqu'à...
Oui, on est monté, oui.
Faut combien de temps?
On a mis plusieurs jours parce qu'on a visité d'autres... Ah ouais. On n'est pas allé directement au nord.
Mais quand on arrive au nord, alors on passe le cercle polaire. Hein.
Oui, voilà, c'est... Là, il y a la ville la plus nordique qui s'appelle Rovaniemi, où habite donc Père Noël.
Oui, ça, c'est la ville
aujourd'hui,
du Père Noël.
Oui, il est urbain aussi aujourd'hui.
Mais le Père Noël est finlandais.
Oui, il est finlandais.
Il parle finnois.
Il parle finnois.
Enfin, normalement, le Père Noël parle toutes les langues du monde. Hein.
Bien sûr. Il connaît tous les enfants.
Aussi. Pas que les Finlandais.
Il paraît que même en Égypte, les gens connaissent Père Noël finlandais, ouais. M'a dit un collègue. Oui, j'ai vu Père Noël chaque année en Égypte.
Ce qui est sûr, c'est que ça génère un nombre important de touristes. Hein. La visite au Père Noël au début du mois de décembre, fin novembre, début décembre, il y a beaucoup de touristes. Hein.
Oui, il y a des vols directs d'Angleterre, d'autres pays aussi. Oui.
Il y a un magasin de souvenirs?
Oui, il y en a plusieurs.
De Noël, ouvert toute l'année. Hein. Tontu, Tontu, je sais pas.
Tontu, oui.
Tontu, c'est quoi?
Est-ce que c'est les gnomes ou...
Ah, les lutins du...
Les lutins, voilà.
Les lutins, oui, du Père Noël.
Oui, voilà.
Alors, on va visiter, nous sommes là pour visiter, Christina, le premier lieu devant lequel on arrive. Moi, j'ai l'impression d'arriver devant une espèce de bunker.
C'est un bunker, c'est une église.
Mais c'est une église.
Qu'on a construite dans les années 60, 69. Plus exactement, cette partie, donc le quartier des années 1920 et 30. Le plan de ville, c'était marqué déjà dans les années 1910, comment construire une église sur le roc.
Ah, c'était avant même l'indépendance de la Finlande, puisque l'indépendance de la Finlande, oui. C'est 1917.
Hein, oui.
L'année de la révolution russe.
Oui, voilà. Mais on a d'abord construit les maisons autour, et quand il était temps de construire l'église, les gens ont dit, s'il vous plaît, ne construisez rien, parce qu'on perd notre vue et on perd notre roche. Mais ils ont commencé à construire l'église, mais la guerre a commencé. Pendant la guerre, bien sûr, on n'a rien construit après la guerre, on ne pouvait pas construire des églises. Et on a organisé une nouvelle compétition début les années 60. Il y avait deux frères finlandais architectes qui ont écouté les gens. Et c'était leur proposition donc, de construire l'église.
Une église plate.
Oui, dans...
Dans la roche.
C'est du granit, comme vous voyez, c'est très dur.
Donc ça, c'est naturel.
Mm-hmm. C'est du cuivre, là.
Le toit.
Le toit, oui.
Le toit plat.
Pas tout à fait plat.
Vous avez oui, mais il voilà. Y a pas de clocher, il y a pas. Voilà.
Y a, donc il y a de la musique qui invite les gens. C'est un Finlandais qui a fait la musique. C'est pas les clochers.
Les Finlandais, rappelons-le ou disons-le, sont protestants.
Nous sommes protestants, oui, évangéliques luthériennes depuis la Réformation, il y a plus de 500 ans. Mm-hmm. C'était le roi suédois à cette époque. Bien sûr, il voulait...
C'était Vasa.
Vasa, voilà, oui, parce qu'il a pu prendre toute la propriétaire de l'Église catholique pour l'État, pour lui-même. C'est très populaire pour les concerts, acoustique et bon, atmosphère. Il y avait un constructeur qui a quitté le projet parce qu'il ne croyait pas au calcul des deux frères. Mais les deux frères étaient nés sur une île au milieu de la mer Baltique. Ils ont été évacués comme 400 000 Finlandais pendant la guerre. Les Russes ont pris cette île et leur père est mort. Donc, ils se sont construits une maison quand ils avaient 15 et 19 ans avec leur mère. Les architectes finlandais ont créé une maison de standard en bois et les gens ont été donnés une pièce de terrain. Et la mère trouvait que ce n'est pas bien le terrain. Elle est allée acheter de dynamite. Elle a donné ça à ses fils de 15 et 19 ans. Et c'était la première fois qu'ils ont utilisé dynamite contre le granit finlandais.
Ah.
C'est comme ça que leur carrière a commencé. Et ils travaillaient beaucoup pour l'armée finlandaise, donc qui utilise beaucoup les.
Ouais, donc ils ont beaucoup de dynamité.
Oui.
Surprise en entrant ce samedi matin dans l'église, on ne tombe pas en plein office, mais en plein concert.
Avant la pandémie, il y avait presque 200 concerts par an, parce que l'acoustique est si bon et les gens aiment cette église.
Ouais, dans les rochers, on est vraiment dans les rochers, hein, de granit.
Il y a de l'eau de pluie qui tombe. Vous s'asseoir ?
On peut s'asseoir 5 minutes, ouais. Il y a un orgue aussi, mais là c'est concert de piano. Cette église est plutôt circulaire, hein, en fait.
Et de cuivre. Il y a 22 km de fil de cuivre.
Oh.
On m'a dit que dans beaucoup de pays, on aurait déjà volé le cuivre.
Et là, c'est un jackpot, hein, pour les voleurs. Donc, il y a effectivement ce dôme de cuivre. Et puis sinon, il y a des vitres au plafond, ce qui fait que la lumière, c'est très lumineux. Hein.
En hiver, il y a de la neige sur la vitre.
On n'a même pas l'impression, le sentiment de venir s'enfermer dans l'église. On a l'impression qu'on est à ciel ouvert en partie. Hein. Très étonnant. Hein.
Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide.
Helsinki, nous le disions, Christina, est une péninsule, mais avec également de nombreuses îles ici à Helsinki.
À Helsinki, la péninsule consiste de à peu près 300 îles.
Oui, 300 îles.
Ouais. Ou 300 îles, et c'est peu, en fait, parce qu'on a plus de 200 000 îles dans les lacs, dans la mer, dans les rivières.
200 000 îles, mais enfin certaines peut-être des toutes petites.
Aussi des toutes petites, oui.
Donc il y a une part quand même de la population qui vit sur les îles.
Oui, voilà. On n'y pense même pas. Et souvent, quand il y a des autoroutes, il y a beaucoup des ponts, en fait. On ne se rend pas compte que...
On passe d'une île à l'autre.
Oui. Vous voyez, là, il y a un parc d'enfants. Et l'équipement est par Lapset. Lapset est une société en Laponie. Et on voit des équipements comme ça partout en Europe et aussi aux États-Unis. C'est par une société finlandaise. On est des constructeurs, des machines, des produits d'investissement, mais on a quand même quelque chose plus doux. Laponie en finnois, c'est Lappi. Et Lapset, c'est les enfants. Ils ajoutent juste deux P, Lapset.
Je calculais, Christine, la superficie de la Finlande, c'est à peu près les 3/5 de la France, donc la France 550 000, enfin métropole 550 000 km², Finlande plus de 300 000, et au niveau population, donc on imagine à peu près presque les 3/4 de la France, avec combien d'habitants ici en Finlande ?
5,5 millions juste.
Voilà, c'est même pas Paris. Hein.
Même pas Paris, c'est Saint-Pétersbourg.
Alors Saint-Pétersbourg, et on appelle ici Helsinki, on dit la petite Saint-Pétersbourg.
Voilà, oui.
Et pourquoi ?
Parce que Helsinki est devenue la capitale de la Grande-Duché autonome de Finlande quand on est devenu une partie de la Russie. Et on n'avait pas de capitale. Donc on a fait de Helsinki la capitale de Finlande.
Oui, parce que c'était le Grand-Duché, Grand-Duc de Finlande.
Oui.
Qui dépendait donc de la Russie.
Oui, le tsar, il était le Grand-Duc de Finlande. On n'était pas sous le régime... général de Russie, mais sous le tsar. C'est lui qui a fait directement les décisions sur la Finlande.
Mais à ce moment-là, on enseignait le russe dans les écoles ou
quand même le finnois, sachant que bon, l'autre langue ici, c'est le suédois aussi.
Non, Alexandre le premier, il était très libéral, il était...
T'es cool, dit, alors.
Lumière, oui. Quoi. Je crois qu'il a pensé de faire de Finlande une sorte d'exemple pour le reste du pays. Donc, il nous a laissé garder notre langue, qui était suédois.
À ce moment-là, c'était suédois.
Les lois suédoises et notre religion. Donc, on est évangélique, luthérienne, pas orthodoxe. Et on a même pu... faire des propositions, comment organiser administration, armée, etc. Donc comme ça a commencé notre voie vers l'indépendance. L'architecture, comme il y avait un architecte...
Allez, on traverse.
Architecte prusse, qui l'a invité ici à Helsinki. Il avait travaillé, Carl Ludwig Engel, il s'appelait. Il avait travaillé déjà pour le tsar à Saint-Pétersbourg et à Tallinn. Il aimait son architecture. D'abord, Engel a dit non. Il a refusé parce qu'il savait qu'il n'y avait rien. Il fait froid ici. Mais il s'est rendu compte... quand même que ça n'arrive pas souvent à un architecte d'être invité à créer de rien une capitale pour une nouvelle nation. Et il est venu, il a calculé de rester 4 ans, mais il est resté le reste de sa vie.
C'est comme on a Haussmann à Paris pour certains quartiers. Donc là, c'est au début du 19e siècle, hein, c'est ça?
Oui, voilà.
C'est
ça. Oui.
Donc c'est vraiment construire une capitale comme Brasilia, peut-être. Il y a une église aussi étonnante à Brasilia, comme celle-ci ici, mais elle est beaucoup plus récente. Helsinki, c'est une capitale qui s'est construite au début, vraiment construite au début du 19e siècle.
Comme une ville suédoise, mais le tsar voulait faire différent. Il ne voulait pas que la capitale soit une petite ville suédoise.
Donc il a construit, bâti une capitale.
Donc surtout la place du Sénat, vous allez voir, c'est aujourd'hui une entité unique au monde, de style empire, style néoclassique.
Si je comprends bien, avant on parlait suédois, plutôt ici à Helsinki. Depuis quand parle-t-on finnois à Helsinki?
On a toujours parlé du finnois, on ne connaît pas très bien l'histoire de notre langue. Mais il y avait cette période de grand-duché, il y avait des gens qui parlaient le suédois, qui voulaient créer l'histoire d'une nation. Et la langue finnoise était une partie de cette histoire. Donc, ils ont commencé à apprendre le finnois aussi, les phénomènes.
Mais sinon, le finnois était parlé où? Il était parlé où avant?
1820, par le peuple. Donc, on a fait partie de la Suède depuis le 12e siècle. Et c'était les Suédois qui se sont installés sur la côte sud et ouest peu à peu. Et il y avait aussi des gens qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas des documents.
Et pas d'archives.
Pas d'archives, non. Ouais. Et comme on a tout construit en bois, il y avait des incendies toujours. Donc même plus tard, on a perdu beaucoup d'archives.
Et on pourrait dire finalement, Christina, que le finnois, c'était une espèce de dialecte, peut-être.
La langue finnoise n'a rien à faire avec les langues scandinaves, donc avec la langue suédoise.
Oui.
Le premier livre était la Bible en finnois, 1640.
Ah oui, quand même.
En suédois, 1540 et quelque chose, donc après la Réformation.
Aujourd'hui, c'est la langue officielle est vraiment le finnois.
C'est le finnois, oui.
Mais tout le monde parle quand même suédois.
Ça, c'est un peu fort. Donc, c'est obligatoire d'apprendre le suédois à l'école. Mais ça n'intéresse pas les jeunes.
Ah, d'apprendre le suédois?
Oui.
Parce que d'abord, tout le monde parle anglais.
Oui, voilà. Donc, dans ma jeunesse, pendant très longtemps, on devait faire le test. Si on a fait le bac, tout le monde devait faire le test de suédois aussi. Mais c'est plus comme ça.
On a laissé le suédois au suédois.
On apprend le suédois à l'école, mais comme il n'y a pas les tests obligatoires. Alors, par exemple, j'ai deux filles qui ont 30 et 32 ans. Elles parlent tous les deux très bien anglais, beaucoup mieux que moi. Mais c'est tout, quoi. Elles parlent mieux que beaucoup d'autres parce qu'on a habité quand même à Porvo, où 30% des gens sont suédois. Mais moi, je voulais vraiment apprendre. J'ai passé deux étés à Stockholm pour apprendre mieux.
Sinon, donc, certains Finlandais, quand ils vont en Suède, eh bien, ils parlent anglais, alors avec les Suédois.
Oui, et notre premier ministre, Sanna Marin, cette jeune femme qui est devenue très célèbre partout au monde, elle ne parlait pas le suédois. Elle parle très bien anglais, mais pas le suédois. Elle est née dans les années 80.
Nous retrouverons Christina à Helsinki. À présent, faisons connaissance avec deux autres guides et accompagnateurs en Finlande, Mia et Pascal.
Voiko sivistynyt kaupunkilaisuus olla kannattavaa? Voiko kaupunkikulttuuria tehdä siten, että samalla pysyy hengissä? Onko Radio Helsingillä syy olla olemassa?
Seuratkaa opasta Helsingissä. Suivez le guide à Helsinki.
Näihin kysymyksiin Radio Helsinki on hakenut vastausta viimeiset 15 vuotta.
Hyvä päivä. Alors, je suis Pascal et puis je vais vous emmener au musée du design qu'on va visiter ensemble et voir un petit peu ce que la Finlande nous propose en matière de design.
Ouais, d'autant que c'est un pays dans lequel le design est très important. La Finlande qui fut capitale mondiale. Hein,
du design, oui, tout à fait.
Du design en 2012, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Nous sommes en tram, nous voyageons en tram. C'est le meilleur moyen de voyager dans Helsinki. Et en plus, comme le tram ne roule pas très vite, bah, ça permet d'avoir le temps de regarder les façades, les maisons, les architectures. Donc c'est vraiment le bon moyen, à condition de ne pas être pressé, de découvrir Helsinki. Et toi, Pascal, qui vis à une cinquantaine de kilomètres d'Helsinki, quand tu viens dans la capitale, tu utilises les transports en commun. On voit des voitures, souvent de belles voitures d'ailleurs, mais on n'a pas un sentiment de circulation excessive dans la capitale.
Hein. Oui, exactement. Donc moi, j'utilise beaucoup les transports en commun, le bus, hein, 50 km en 50 minutes. Et j'ai un bus qui part tous les quarts d'heure, quasiment. Donc ouais. J'arrive exactement au plein centre-ville, j'ai pas ce problème de parking. Payer le parking, etc.
Ouais, donc c'est probablement cher de se garer au centre-ville, mais tu as quand même une voiture.
Oui, voilà, j'ai quand même une voiture, mais j'utilise essentiellement les transports en commun, voilà, comme le tram ou le métro, ou alors les bicyclettes, les trottinettes. Enfin, on essaye de mettre un maximum de ce genre de moyens de locomotion à la disposition des Helsinkiens.
Bon, alors Pascal, tu n'as pas du tout d'accent finlandais. Donc Pascal, on se dit, tiens, c'est un prénom pas trop difficile à comprendre, donc tu n'as pas du tout d'accent nordique. Parce que tu ne l'es pas de naissance.
Non, effectivement, je suis vraiment un Français et un Finlandais d'adoption depuis 25 ans.
Ça, tu vas nous raconter. Mais nous sommes à peu près arrivés au musée du design, donc on ne va pas tarder à descendre du tram. Quartier du district, Mia. Donc il y a des magasins, mais il y a un souci pour ceux qui souhaitent ouvrir un commerce ici, d'être vraiment dans la thématique du quartier.
Oui, donc quand on reçoit des applications pour devenir membre, on évalue avec certains critères. Par exemple, toute production des produits doit être transparent. Ça ne doit pas être forcément fabriqué en Finlande ou dans les pays nordiques, mais l'origine des des produits et des matériaux utilisés doit être connu. Le côté design, bien sûr, est très fort. Et surtout, si les designers sont des Finlandais, même si les produits même sont fabriqués. Par exemple, tout ce qui est vêtements est souvent fabriqué en Estonie ou dans les autres pays baltiques. Des sacs, chaussures au Portugal.
Donc là, on est devant, par exemple, le magasin Design Art Vintage. Momono, ça veut dire quelque chose?
En fait, c'est du japonais. Et ça veut dire un arbre de pêche.
À pêcher.
Pêcher, voilà. Eux, ils ont de vintage et de nouveau.
Et la Finlande fut capitale mondiale. Ou Helsinki, c'était le pays ou c'est la ville capitale mondiale du design?
C'était 2012. Oui.
Helsinki, capitale mondiale du design. Toute cette histoire du design avait commencé, mais ça a aussi boosté l'intérêt pour le design en Finlande.
2012, oui. Absolument. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties grâce à ça. Depuis, il y en a énormément, des pop-up shops.
Des pop-up shops, c'est quoi?
Des pop-up shops, donc c'est des magasins temporaires.
Ah oui.
Où, par exemple, justement, les designers jeunes...
Éphémères, on dit en France, oui, c'est ça.
Qui peuvent présenter ces produits et essayer de lancer une collection. Donc, c'est très, très intéressant pour les jeunes artistes et designers. Voilà.
Alors, on entre.
Là, on voit toutes les membres de Design District.
Et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, 140 à peu près, par catégorie. Donc là, on voit toutes les catégories. Design, mode, les bijoux, antiquaire, galerie d'art, etc.
On pourrait dire qu'il y a vraiment un tourisme design qui se développe?
Pas qui se développe seulement, mais qui existe depuis
qui existe.
Voilà, je dirais facilement 15 d'années.
On vient à Helsinki pour le design.
Pour le design, absolument. Ouais.
Le musée est en face de nous, le musée du design. Joli bâtiment de briques rouges. Nous avons rendez-vous, Pascal?
Oui, on va rencontrer Mia, qui va nous guider dans son musée et puis qui va raconter un petit peu l'histoire du design finlandais.
Qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça de France, hein, le design finlandais. Et nous avons rendez-vous à 11h. Bon, moi, je l'ai déjà appris, puisque ça fait quelques jours que je suis arrivé en Finlande, qu'en Finlande, l'heure, c'est l'heure.
Voilà, exactement. Quand on a dit à 11h, c'est pas 11h02 ou 5, c'est 11h. Ouais. Donc là, il est vraiment 11h et on est vraiment pile poil à l'heure. Elle va être contente de nous retrouver en temps et en heure.
Parce qu'elle se dit, sinon, c'est français, ils ne sont jamais ponctuels. Alors bon, la ponctualité française, c'est avec une marge normalement d'un petit quart d'heure, hein, quand même. 10 minutes, allez, ça va. On considère qu'on est à l'heure. Ici, 10 minutes, si on arrive à 11h10, nous sommes en retard.
Oui, absolument. À 11h10, c'est pas acceptable. J'avais donné rendez-vous à un Finlandais en plein hiver, à 19h, en dessous de l'horloge de Stockmann.
En plein hiver, on se dit, ça caille.
Voilà, en plein hiver, il fait super froid, il faisait moins 20 degrés. Et bien sûr, moi, un bon français, je venais d'arriver en Finlande, je suis arrivé 10 minutes après, et le gars, il était juste en dessous de l'horloge à m'attendre, et très fâché parce que j'étais en retard. Et moi, en français, je lui ai dit, bah, écoute, tu avais juste à m'attendre derrière les portes et tu m'aurais vu arriver, quoi. Ça sert à rien de m'attendre en dessous de l'horloge à moins 20. Et,
ouais, il était très à moins fâché. 20, pas l'heure, mais la température.
Voilà, surtout la température, voilà. Donc, ça a commencé vraiment très mal.
Et vous avez quand même passé la soirée.
Oui, voilà, ça s'est bien passé, mais moi, j'ai appris qu'il faut être à l'heure.
T'as dû payer ta tournée, là. Mia. Bonjour.
Bonjour.
Pascal.
Mia.
Enchantée.
Enchantée.
Enchantée de vous rencontrer.
Thierry.
Oui, nous parlions de ponctualité. On était en train de parler de l'heure. Voilà.
Pile à l'heure.
Et descendu du tram pile à l'heure. Nous allons découvrir ce musée du design ici à Helsinki avec vous, Mia.
On a tout le design district à découvrir.
Ah, tout le design. Ah oui, d'accord.
Voilà, donc ça,
le quartier du design.
Partie, voilà, ça fait partie du design district, mais il y a beaucoup de choses. Pas que des musées et des galeries, mais des boutiques, des restaurants, enfin, plein de choses.
Il y a Mia véritablement dans la capitale ici à Helsinki, on pourrait dire le quartier du design.
Nous sommes maintenant sur le Design District, qui est un quartier qui a commencé plus ou moins il y a 20 ans et c'est devenu tellement un concept connu que même sur les plans de touristes, c'est souvent marqué Design District. Et donc là, nous sommes... Oh, pardon.
Alors je vais voir si votre téléphone est design, non, non.
Là, nous sommes devant un hôtel qui s'appelle Lila Roberts. Je disais justement que nous avons des hôtels aussi qui font partie de Design District. Pas tous forcément, mais des hôtels où le design joue un rôle important, d'une façon ou d'une autre. Pas forcément de design finlandais, mais qu'il y a un aspect design intéressant dans l'hôtel.
Mais moi, vu de l'extérieur comme ça, je trouve un côté art déco quand même.
Oui, bien sûr, le art déco, c'est connu en Finlande et c'était un mouvement très fort dans l'histoire de Finlande. Mais aussi, surtout à l'intérieur, c'est encore plus accentué.
Quant à l'architecture du bâtiment, est-ce ce qu'on pourrait appeler, ça me semble pas si vieux que ça, mais l'architecture fonctionnelle finalement?
Je pense.
Est-ce qu'elle est importante, cette architecture fonctionnelle?
C'est vrai, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, où surtout, je pense en Europe en général, mais surtout dans les pays scandinaves, le côté fonctionnel était très apprécié.
J'ai vu ça à Prague aussi. Oui. Mm-hmm. L'idée, c'était que dans l'architecture, si c'est pas utile, on fait pas. C'est que ça doit être utile.
C'était ça l'idée de...
Si ça sert à rien,
voilà,
on fait pas.
Voilà, pourquoi faire.
Helsinki est considérée comme la capitale mondiale du design, avec le design district, quartier dédié au design, que nous parcourons avec notre guide spécialisé dans le design, Mia Saporito.
Seuratkaa opasta Suomessa. Suivez le guide en Finlande.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Si tu devais nous dire, Mia, ce qui caractérise l'Inde finlandais, et puis si on remonte à l'origine, à l'histoire, ça commence quand le design finlandais, au début du XXe siècle?
Oui, enfin le design le plus connu, quand c'était devenu plus connu mondialement, c'était...
Connu après, hors de
voilà,
la Finlande.
Voilà, ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, justement avec... Alvar Aalto, Eero Aarnio, Eero Saarinen, les designers comme ça.
Ouais. Alors ce sont des noms qui sont très très connus ici en Finlande. Oui. Si je fais un micro-trottoir, j'ai le micro, on est sur le trottoir. Si je demande à ces trois garçons qui arrivent, si je leur cite leurs noms, ils les connaissent forcément.
Oui.
Bon, on va pas le faire. Nous, on ne les connaît pas forcément en France si on n'est pas vraiment intéressé par le design. Alors.
Oui, je suis sûre que dans le monde d'architecture et design de meubles, c'est connu. C'est bien coté dans tous les grands livres de design.
Alors, mais qu'est-ce qui caractérise ce design finlandais?
Je pense qu'à l'époque, c'était d'une part la simplicité, aussi, comme on s'était dit avant, le fonctionnalisme, le côté... fonctionnel, qu'il n'y a pas un seul détail inutile dans le meuble ou autre.
On ne rajoute pas des fioritures pour rien, donc ça doit être fonctionnel, mais en plus il y a dans la conception de la pièce, enfin, il y a quelque chose, une originalité vraiment en plus.
Bah, à l'époque c'était aussi question de coûts et des matériaux, parce qu'après la guerre tout était cher, donc il fallait bien utiliser les matériaux pour tirer tout ce qu'on pouvait de ces matériaux premiers.
Des matériaux plutôt travaillés que d'autres?
C'est un peu malheureux à dire, mais le plastique était devenu... le plastique n'était pas connu, enfin, c'était pas commercialisé. Par exemple, dans la cuisine des gens, il n'y avait pas de plastique avant les années 50, plus ou moins, avant la guerre. Donc ça, c'était révolutionnaire à l'époque.
C'est l'époque où on disait le plastique, c'est fantastique.
Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on dirait le plastique, je ne sais pas, c'est terrifique.
Voilà, c'est ça. Mais c'était aussi une matière qui a donné la possibilité d'exploiter les formes qui était avant difficile à créer avec le bois ou pierre ou même le métal. Donc ça avait bien sûr une certaine flexibilité et c'était facile à travailler.
Alors il y a un objet de design, alors le design est utile aussi, hein. Les objets de design finlandais sont utiles, on les retrouve en cuisine, il y a même un design culinaire, mais des chefs aussi, il y a un design aussi dans la présentation des plats dans les assiettes, on peut parler de ça aussi?
Moi je ne connais pas,
c'est plutôt les contenants alors.
Oui, par exemple, ça me fait tout de suite penser au Japon, où la cuisine japonaise est très très pointue et très, c'est très important pour eux comment les choses sont présentées sur l'assiette. Mmh. Donc,
c'est pas trop le cas là.
Ouais. Non, pas trop. Bien sûr, en général, le trend maintenant, c'est d'avoir des belles assiettes. Et je pense qu'un peu partout.
J'ai rencontré des designers culinaires en France, ce sont les chefs. Mm-hmm. Qui font appel à elle pour la création en cuisine.
Ouais.
On fait appel à une designeuse culinaire.
Ah, quel travail ouais. Ça doit être
un objet que tout le monde a en France, parmi celles et ceux qui nous écoutent. Je pense que un grand nombre ou la plupart ont cet objet dans un tiroir, peut-être dans leur cuisine, mais sans savoir qu'il s'agit de design finlandais.
Oui, ça doit être les ciseaux orange de Fiskars, ou des couteaux Fiskars, ou des haches Fiskars.
Ouais. Parce que les ciseaux, ils sont en fait quand on les tient, c'est fonctionnel vraiment pour en fonction des doigts, du pouce, mm-hmm. etc. Pour qu'on les ait bien en main. Hein.
Oui, justement, et ils font des différentes paires pour les gens qui sont des
gauchers ou droitiers.
Voilà, c'est ça.
Et ça, c'est du design finlandais.
Oui.
On peut être confronté au design finlandais sans le savoir.
Oui, oui, absolument.
Alors, on entre chez Johanna.
Hello.
Est-ce qu'elle peut raconter un peu en anglais de.
Ah non, mais plutôt en finnois, et puis Mia, toi, tu peux traduire.
Ok.
Eli, on entend un peu la langue.
Tämmöinen radio on. Eli heidän toivomus on, että jos sä kerrot suomeksi, ja sit mä kerron ranskaksi.
Okay. Et puis on a peut-être un ou deux auditeurs qui comprennent le finnois.
Le meilleur, ça aurait été si le fondateur Johanna était ici elle-même, parce qu'elle parle très très bien français. Mais bon, elle n'est pas là aujourd'hui.
Mais déjà, j'ai beaucoup de chance de te rencontrer, toi qui parles français. c'est pas si courant non plus, enfin. Et donc, quel est son prénom?
Rebecca.
Donc Rebecca va nous présenter ce qu'on trouve ici chez Johanna.
Ouais.
En quelques mots, Rebecca.
Saanko kertoa suomeksi? No niin, ranska ei valitettavasti tule. Johanna Gulliksen on tämmöinen tekstiilidesign-firma. Johanna on suunnitellut tekstiilejä 80-luvusta asti.
Johanna Gulliksen, c'est un designer de textile qui a commencé les années 80 déjà. Nous sommes dans son magasin.
Joo, ja Johannan tämä kuuluisa Normandie Collection on ollut 97 vuodesta asti muuttumattomana pysynyt, kestää aikaa tosi hyvin.
J'ai compris Normandie, je sais pas si la Normandie vient faire quelque chose là-dedans.
C'est le nom de cette collection le plus connu, qu'on voit dans différentes couleurs, et donc ça a été créé dans les années 90. Donc le nom vient exactement de Normandie, elle connaissait pas l'histoire plus que ça, mais Johanna, elle a vécu en France pas mal de temps, donc certainement voyagé un peu partout en France aussi.
Avec des motifs plutôt géométriques. Hein.
Voilà, c'est ça l'idée, c'est que ça dure de temps.
Ça ne se démode pas.
Voilà, c'est ça. C'était à la mode dans les années 90 et c'est tout.
Et c'est toujours à la mode, voilà, c'est intemporel.
Intemporel, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et dans 20 ans, ça passe tout aussi bien que maintenant.
Merci beaucoup. Kuitenkin.
Dans notre découverte du design district, le quartier du design d'Helsinki, avec Mia Saporitu, nous entrons à présent dans le musée du design.
Seuratkaa opasta Helsingissä. Suivez le guide à Helsinki.
Ah ben voilà les fameux ciseaux dont nous parlions. Ils sont plantés sur le mur derrière la je sais pas si c'est la caisse. Oui, la caisse, l'accueil. Enfin, quand on entre au musée du design, effectivement. Donc voilà ce qu'il faut acheter quand on vient, c'est qu'il faut acheter des ciseaux.
Oui, c'est ça.
Bon, après, si on n'a que des bagages à main dans l'avion, on ne peut pas passer. Hein.
Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est, quelquefois, il sort aussi des couleurs spéciaux pour des saisons ou des motifs spéciaux. Ça peut être très rigolo.
Au musée du design, nous plongeons dans l'histoire et les classiques du design finlandais. Hein. Alors, on va commencer par une boîte. Je ne sais pas si c'est une boîte magique. Mais ou si c'est la boîte de Pandore, mais il y a une boîte en carton qui est exposée au musée du design.
On appelle ça la boîte de maternité. Quand on devient mère, quand on a un enfant en Finlande, chacun reçoit de sécurité sociale, enfin de l'État, cette boîte qui contient des vêtements pour l'enfant, des choses utiles comme une brosse
à dents, voilà, un thermomètre, une paire de ciseaux voilà. D'ailleurs, mais pas les mêmes.
Petite livre. Des couches, c'est maintenant très à la mode, les couches...
Ça revient.
Qu'on ne jette pas. Il y a une combinaison pour l'hiver, un sac de couchage,
choses comme ça. C'est une espèce de kit de survie pour
voilà,
le bébé.
Voilà, c'est ça. Et il y a aussi des condoms.
Des préservatifs.
Oui, des préservatifs.
Pour le bébé. Non. Je croyais qu'on manquait d'enfants, là, maintenant.
Peut-être qu'il n'y en a plus, mais quand j'ai eu mon enfant, il y avait ça.
Après, on se plaint qu'il n'y ait plus d'enfants, si on donne des préservatifs. Sinon, si on faisait un survol, vraiment, de ces pièces de l'histoire du design.
Donc là, par exemple, il y a un lavabo de Alvar Aalto, ah, oui. Qui était dessiné pour le Paimio Sanitarium, qui est un building très connu dans le monde du design. C'était un hôpital pour les gens qui avaient des maladies de poumons à l'époque. Ah.
Je vais te dire, mais à quoi ça m'a fait penser?
Moi aussi, oui, mais bon. Non, c'est un...
Moi j'ai pensé, je le dis, à un urinoir. Hein.
Mm-hmm, moi aussi.
Mais... Même peut-être une œuvre d'art de Marcel Duchamp, je ne sais pas, mais non, c'est pas ça.
Mais tout ça, c'était bien réfléchi dans le sens où, par exemple, les patients, quelquefois, ouais. Ils avaient des problèmes, je ne sais pas, de se bouger, je crois l'histoire.
Mais la forme, c'est lié à la fonction, c'est le fonctionnel voilà. Qui l'emporte.
Oui, ouais. C'est pas juste un lavabo, c'est un lavabo, on va dire, intelligent.
L'univers des artistes est parfois un peu mystérieux, mais l'univers de la langue finnoise, pour nous, est un peu mystérieux aussi. Alors j'en profite avec toi, puisque tu es finlandaise. C'est une langue, Pascal nous le disait, c'est une langue finalement peu parlée dans le monde, enfin qui est parlée des Finlandais dans le monde. En dehors des Finlandais, personne ne parle le finnois.
Je pense que c'est plutôt rare, oui.
Nous, déjà, ce qui nous effraie quand on regarde les mots écrits, c'est parfois la longueur des mots.
Oui.
Vous pouvez avoir, donc en finnois, des mots très très longs. Hein.
Oui, très très longs.
Quand on joue, je ne sais pas s'il y a un jeu, comme en France, on a des chiffres et des lettres, plus on a des mots longs, enfin, etc., plus on marque de points. On marque beaucoup de points si on joue à ce jeu-là ici. Ce que tu me disais au micro, c'est qu'en plus, donc déjà, ils sont très très longs, mais où c'est encore plus vicieux, c'est que il faut prononcer chacune des lettres.
Oui, chacune des lettres.
On ne groupe pas plusieurs lettres pour avoir un seul son. Non.
Non, non, non. Chaque lettre est prononcée.
Il y a le mot qui est identifié comme le mot le plus long de la langue.
Oh. Bah, une que j'ai entendue, c'est « Epäjärjestelmällisyy dellänsäkään ».
Ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire « malgré le fait qu'il est bordélique ».
Et ça, c'est un seul mot.
Oui.
Malgré le fait qu'il est bordélique,
oui,
on dit ça.
Plus ou moins.
plus en ou un moins. Mot. Oui.
C'est peut-être pas bordélique de mettre tout ça dans un seul mot. Moi, c'est pas un mot qu'on prononce forcément tous les jours.
Oui, parce que donc ça, c'est un seul mot, parce qu'après, on peut bien sûr faire des mots comme kalastajatorppa. C'est une combinaison de ces deux mots ensemble. Mais après, ça devient un seul mot quand on les met ensemble. Ouais. Et donc, après, on peut avoir.
Donc, ça veut dire quoi, kalastajatorppa?
C'est la cabane de pêcheurs.
Ouais. Donc, la cabane du pêcheur, c'est un mot.
Oui.
Donc on peut grouper comme ça et mm-hmm. faire un mot avec ce qui fait une phrase oui. chez nous, on le met
voilà,
en un mot.
Voilà, et ça peut avoir cinq mots.
Ah dire. Ouais, mais c'est peut-être le sens du rangement aussi, on sait dans toutes les boîtes qu'on produit ici, on a le sens du rangement, on prend plein de mots puis on les met tous ensemble et ça fait un seul mot.
Oui, voilà.
C'est fonctionnel.
Oui, c'est ça. C'est un très bon exemple qu'on voit souvent dans les magazines de design, le tulip, chaise tulip de Eero Saarinen.
Diffusé mondialement, oui.
Oui, oui, oui.
S'il y a ce design finlandais, c'est qu'on a étudié le design davantage en Finlande. Oui, il y a des pères fondateurs. On a parlé d'hommes, d'ailleurs, il y a des femmes aussi. Peut-être tu as cité mm-hmm. des femmes, mais je n'ai pas compris que c'était des femmes. Et il y a aujourd'hui des écoles de design. Enfin, est-ce qu'on vient étudier le design en Finlande?
Je pense, oui. C'est connu mondialement.
Et là, on est face à une autre star.
Mm-hmm. Eero Aarnio, mon favori, absolument. Et il est toujours en vie. Il a 94 ans, quelque chose comme ça.
C'est ce fauteuil qu'on appelle balle.
Oui, c'est ouais. ça.
Donc, en forme sphérique. On est presque coupé du monde quand on est à l'intérieur.
Oui, c'est très agréable d'être là-dedans.
On peut y être à plusieurs.
Si on n'est pas très grand.
Il ne faut pas avoir consommé beaucoup de junk food.
Oui, ils sont quatre.
Toute une famille dedans. Oui. Ouais. Eero
Aarnio.
Eero Aarnio. Est-ce que dans chaque foyer finlandais, aujourd'hui, il y a des pièces de ce design finlandais?
Je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus qu'il y en a maintenant. Chez mes parents, il y en avait, même si mes parents ne sont pas particulièrement orientés design.
Et puis là, on se retrouve face à la princesse Leia, en tout cas à Carrie Fisher.
Oui, oui, c'est ça. Elle portait un bijou de Kalevalakoro, qui est une maison de bijoux en Finlande.
Je ne sais pas si c'est Carrie Fisher qui porte le collier ou si c'est la princesse Leia.
Je pense que c'était plutôt princesse Leia.
Ah, c'est la princesse
oui.
Leia.
Oui, c'était dans le film.
Vous l'avez compris, l'apprentissage du finnois n'est pas évident, mais retenons qu'il faut prononcer toutes les lettres. Fin de ce premier Suivez le guide en Finlande, à Helsinki. Grand merci Christina Kajani-Kurki, Mia Saporito et Pascal Marie. Suivez le guide à Helsinki, préparé par Heidi Johansson, Helsinki Partners. Merci Sandra Valin, dont la voix accompagne toute la série.
Eipä kestä, ilo on puolellani. De rien, c'est avec plaisir.
Réalisation Roman Feopio, les sites internet visitfinland.com et designmuseum.fi.
Kiitos ja nähdään taas pian Helsingissä. Merci et à très bientôt à Helsinki.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Montserrat Vidal.
Le discrédit est partout, il touche le pouvoir, le savoir, le mérite et la représentation. C'est un monstre aux mille visages. C'est ce dont nous entretient Christian Salmon qui publie « L'Empire du discrédit ».